Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Comment sensibiliser les enfants au vivant et à l'environnement? Réponse, la culture du dehors. Entre scoutisme et terrain d'aventure, cette culture du dehors a le vent en poupe depuis la fin des confinements liés au Covid. Nous en parlerons dans quelques minutes avec une chercheuse et sociologue de l'Université de Brest qui a travaillé sur la question. Mais avant, direction un quartier du sud de Rennes où l'association L'Allumette a entrepris une petite partie d'un parc pour le transformer pendant quelques mois en un espace de jeu et de liberté pour les enfants. C'est un reportage signé Julie Boffis de Canal B, votre radio associative locale à Rennes et dans sa région.
Alors donc nous voici devant le terrain d'aventure d'hiver, qui est vraiment un tout petit bout de parc, un tout petit bout du parc de Fernand-Jacques. Et donc moi c'est Claire, je suis à l'Allumette depuis 2 ans à peu près. Et je suis animatrice du terrain d'aventure.
Je m'appelle Morgane, je travaille à l'Allumette depuis 2022. Je suis coordinatrice et animatrice du terrain d'aventure. Le terrain d'aventure, il existe depuis 2021. Et on est sur 2 espaces. D'avril à novembre, on est dans le parc Marc Sangnier. Et l'hiver, on est au jardin Gérard Philippe. Ou plus communément appelé le square Fernand-Jacques. C'est au sud de Rennes, vraiment frontière Blône et enfin les quartiers Blône et Pommeray.
Là, on a notre petite réserve de bois. Les enfants peuvent donc on essaie d'alimenter. Les enfants se servent aussi comme ils et elles veulent pour leur construction. Bon, on sort des tables. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout est très modulable, déplaçable, transformable. En soi, là, c'est l'installation d'aujourd'hui. Bon, on a quand même ce qu'on appelle un peu nos petits drapeaux, quoi. C'est-à-dire les choses qui bougent pas, dans le sens où, par exemple, un panneau d'outils, celui qu'on voit, là, peint en bleu, là-bas. Sur un terrain d'aventure, il y a un espace où on peut prendre des outils. Il y a un espace où on peut avoir accès à l'eau très facilement. Il y a tout un travail d'approvisionnement et c'est beaucoup de récup, beaucoup de dons. Et bien sûr, au fond, les petites cabanes qui commencent à pop-up gentiment et qui sont le fruit de nombreuses après-midi, de nombreuses collaborations et expériences.
En fait, on met à disposition des matériaux pour qu'il y ait une pluralité de jeux et de possibilités et d'imaginaires. Et donc justement, les adultes ont évidemment leur place, mais l'espace est dédié, aux enfants et à leur liberté de mouvement, à leur autonomie dans leur choix. C'est un endroit où on prend des risques. Nous, notre pédagogie, c'est celle de la pédagogie du risque. Donc voilà, on fait du feu ici, on peut grimper aux arbres, on construit des cabanes avec des scies, des marteaux, on peut utiliser une hache.
Nous aussi, en fait, il faut qu'on... Enfin, travaillant ici depuis plusieurs années, on sent qu'on commence nous-mêmes à lâcher prise, à avoir moins d'automatismes et de réflexes et à laisser les enfants faire. Et en fait, ça passe, c'est beau, c'est créatif. Mais en fait, la vérité, c'est que maintenant, moi, de voir un enfant courir avec une scie, ça ne me fait plus rien du tout, quoi. Et il faut aussi que nous, on accepte que quand les parents, c'est les premières fois qu'ils vont vraiment voir ça. En plus, il n'y a pas qu'un seul enfant qui court. C'est joliment chaotique, quoi. Mais en fait, nous aussi, accepter que ça prend du temps, en fait, c'est toute une culture... avoir des nouveaux regards sur les enfants et leurs pratiques, en fait.
Aujourd'hui, pour plusieurs familles, c'est la découverte du terrain d'aventure du parc Fernand-Jacques. Chloé, 11 ans, et sa mère ont découvert les terrains d'aventure à Paris lors de la fête de l'humanité. Chloé explique comment elle a passé ses différents permis outils et construit une voiture en bois en cet après-midi ensoleillé.
Là, c'est une voiture. Faut passer son permis. Permis scie et permis marteau. J'ai juste mis un clou dans 2 planches. Pour le marteau et pour la scie, j'ai scié une planche.
Donc là, c'est la première fois qu'on vient pour voilà, pour profiter un petit peu. Et Chloé adore bricoler. Alors moi, je suis contente parce qu'elle peut construire des choses et laisser libre son imagination. Alors qu'à la maison, bah, c'est dans un appartement, c'est plus compliqué de construire des choses. Elle construit des choses en papier et en carton, mais ici, voilà. Elle peut utiliser les matériaux et faire ce qu'elle veut. Et comme on lui a appris à utiliser l'outil, du coup, elle sait quand même faire attention et manipuler sans se faire mal, en fait. Puis si on les laisse trop dans un cocon, si on les couvre trop, ils grandissent pas non plus.
Alors que certains accompagnateurs sont de simples observateurs, d'autres deviennent assistants bricolage. C'est le cas d'Anaé, 36 ans, qui vient aussi pour la première fois avec ses enfants.
C'est la première fois que je viens essayer aujourd'hui avec les garçons. C'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps en fait, un truc où puisse, un endroit où puisse vraiment un peu différent du parc, où ils puissent explorer, bricoler, faire ce qu'ils avaient envie de faire en fait. Voilà, donc non, je trouve celui-là bien, idéal. Oh, ouais. L'aspect autonomie, l'aspect bricolage, l'aspect je trouve pas de solution, mais je me débrouille toute seule pour trouver une solution. Enfin, tout ce qu'ils expérimentent pas, qu'ils n'ont plus l'occasion d'expérimenter dans le quotidien. Quoi. Ok, et j'aide mon fils en même temps à fixer une planche.
Voilà. Non, un endroit fait aux taille enfant.
Ah, taille enfant, ok. C'est vraiment un lieu pour la créativité, pour l'imagination. Hein, c'est vraiment génial. Ça sort un peu de je les emmène au parc, ils font 3 tours d'autobogan, ils en ont marre, ils veulent rentrer. Je veux dire, c'est sans limite, quoi. Ouais, je me dis, au pire, ils vont se couper, ils vont se taper un doigt avec un marteau, ils vont survivre, quoi. Je veux dire, voilà. Ça me ferait vraiment pas peur. Et puis, ça les aide à avoir confiance en eux aussi, dans leur capacité, enfin, un sentiment de compétence, en fait, qu'ils peuvent développer ici aussi, au-delà de l'imagination et de l'autonomie aussi.
Si Claire et Morgane estiment qu'il faut rester humble dans cette démarche de pédagogie avec les enfants, elles préfèrent utiliser le terme de culture du dehors plutôt que celui d'éducation populaire.
En fait, on se dit qu'il faut d'abord connecter avec les autres vivants pour pouvoir être ensuite dans une démarche de préservation de la biodiversité, d'écologie même. Et pour nous, c'est ça notre petite démarche. C'est plutôt de d'éprouver le dehors, quoi. Donc c'est pour ça que nous on parle de culture du dehors.
Là, on qualifie les enfants maintenant d'enfants d'intérieur, c'est-à-dire que les enfants passent très très peu de temps dehors, ils ont très peu de trajets où ils peuvent aller explorer le dehors. On est passé en quelques années de, je crois que c'est, je n'ai pas les chiffres exacts, mais de environ 4-5 km à 300 mètres de périmètre d'exploration. Donc il y a vraiment un rapport au dehors qui se diminue. Donc si on veut protéger le vivant, il faut déjà avoir les mains dedans, quoi.
Mais le terrain d'aventure, avant d'être un lieu d'apprentissage, c'est avant tout un espace que les enfants occupent et qu'ils modifient à leur manière.
Je m'appelle Marzia, j'ai 12 ans, je viens d'Afghanistan. On habite juste là, il y a un immeuble rose à côté de terrain d'aventure. Et ici, on est là pour jouer, pas pour dire des gros mots, pas se bagarrer, pas faire n'importe quoi. Et voilà, pour que les gens s'amusent, les enfants. On joue, tous les mercredis, il y a des jeux qui viennent de maison quartier. Il y a le terrain d'aventure aussi, les mercredis ramènent le goûter. Et des fois, il y a des chamallows, des trucs comme ça. Sucré. Ici, bah, la peinture qui me plaît. Ah oui, c'est par là. J'avais peint ça, le soleil. J'avais ça qu'on avait fait avec Claire.
On peut voir un petit kiosque recouvert d'une bâche transparente pour nous protéger de la pluie. Et autour, on a commencé des petites fresques avec les enfants. Donc c'est expérimental, comme on aime.
En fait, je trouve que des signes... Attention à ce que je vais dire. Je pense que je vais bientôt rentrer en politique. Je trouve que c'est vraiment signe de bonne santé d'une ville que d'entendre les enfants crier, les enfants rigoler avec là, les enfants s'engueuler. Et moi, j'aime trop aussi quand c'est méga bruyant.
De toute façon, le terrain d'aventure, c'est que des leçons de vie, hein, quelque part. Mais là, il y a quand même le côté... Bah oui, en fait, on occupe un petit espace, enfin on est plusieurs à l'occuper, en fait on le construit, en fait ça va être détruit. Enfin c'est, il y a le côté un peu éphémère, mais on retient toutes les petites aventures de vie qui s'y sont passées, quoi. Donc
c'est des couches les unes que les autres, quoi. Il y a une phrase qui est tirée du film Zealand, qui parle d'un terrain d'aventure en Angleterre. Et la phrase est trop belle, c'est « Pour un œil adulte, cela peut sembler sale et chaotique. Pour les enfants, ce sont juste des possibilités. » Et c'est une phrase qui nous inspire beaucoup, quoi. C'est que oui, ça paraît... ça paraît un peu, des fois, cracra, désorganisé. Mais ça reste du jeu et des possibilités pour les enfants, quoi.
Voilà, la culture du dehors exprimée, on l'a entendu, par ces enfants à plein poumon dans ce parc du sud de Rennes. Mais ce genre d'espace, pensé pour la reconnexion des enfants à la nature, est-il vraiment une nouveauté ? Jolie Beaufis de Canal B, votre radio associative rennaise, a voulu en savoir plus avec Bénédicte Arvard-Duclos, sociologue et chercheuse à l'Université de Brest Occidental.
La valorisation éducative du plein air et de la nature, c'est pas nouveau. En fait, on a une grande enquête qui a été menée par Gilles Ravenot et Florence Bouillon sur l'histoire des terrains d'aventure et qui montre que on a eu en France une apparition assez forte de ces terrains d'aventure dans les années 60, un peu plus tard qu'ailleurs en Europe, puisque dans les autres pays européens, c'est plutôt vraiment pendant la guerre qu'on va avoir ce développement très fort d'espaces d'expérimentation dehors pour les enfants, sur des terrains vagues, sur des lieux libérés finalement paradoxalement par les bombardements, etc. Donc on va avoir tout un tas de pédagogues qui vont investir cette culture du dehors, donc dans les années 60-70. Et puis il se trouve qu'en France, alors qu'ailleurs en Europe, ces traditions se sont maintenues, en France, elles ont été un peu oubliées, elles ont disparu dans les années 80. Probablement parce que quand la gauche arrive au pouvoir, elle va institutionnaliser toutes ces expériences, elle va proposer des politiques de la ville qui vont privilégier plutôt l'ouverture d'équipements culturels, socioculturels, donc avec des choses beaucoup plus instituées, institutionnalisées. Et il se trouve qu'en France, on a un renouveau très très fort de ces pédagogies du dehors. Depuis, je dirais, les années 2000, 2010, même 2020, la pandémie du Covid a été un moment important pour dire « mais on a besoin que les enfants retournent dehors ». Et donc, on a tout un tas de nouvelles initiatives à partir, ouais, c'est ça, des années 2019, 2020. Alors, on le voit en dehors de l'école, dans tout le champ périscolaire, extrascolaire. L'éducation populaire va réinvestir ça beaucoup. Ça s'est passé sur le champ extrascolaire, mais ça se passe aussi à l'école. À l'école, jusque dans le milieu des années 80, un enfant sur deux part en classe découverte au moins une fois dans sa scolarité. Et donc, il y a cette idée de la pédagogie du dehors aussi depuis l'école. Et puis, à partir des années, milieu des années 80, ça diminue. On voit là revenir, c'est ça, depuis les années 2020, un très très fort retour de cette culture du dehors. Mais il me semble que le foisonnement des initiatives vient plutôt de la société civile ou de personnes qui individuellement vont se fédérer dans des réseaux et vont monter ces projets. Les espaces dans lesquels on va développer cette culture du dehors, c'est un très grand lieu d'expérimentation, d'apprentissage, qui va permettre de développer son autonomie, sa confiance en soi, parce que ça résiste en fait, ça demande de la persévérance, c'est pas facile, c'est pas immédiat, c'est froid, ça pique, c'est chaud, ça demande de l'effort, on peut se faire mal, enfin bref, tout un tas de choses qui résistent en fait, le fait que on se confronte à des choses où on n'y arrive pas, mais des choses qui sont des choses matérielles, ça permet un engagement plus long, plus intense dans les jeux, et tout ça va développer des formes de persévérance que la culture de l'écran permet moins, En fait, ça permet, et ça, toutes les études de psychologie notamment sont assez unanimes sur le fait que ça améliore la santé mentale et physique. Hein, ça fait baisser le stress, ça fait du bien, mais comme se défouler. Vous savez combien le sport est important pour les enfants dans leur bien-être. Ben, en fait, ces lieux-là sont des lieux... qui sont pas du sport régulé par des règles hyper enfermantes, mais c'est bien des lieux de ou qui fortifient les corps finalement aussi et donc qui permettent de développer des capacités psychomotrices importantes de souplesse, de force, d'équilibre, etc. C'est aussi des lieux parce que les règles existent, mais qu'elles sont moins enfermantes, elles sont plus souples, elles permettent davantage d'appropriation par l'enfant. Être dans l'expérience du faire, c'est construire, organiser son propre espace, se confronter aux autres, réguler, adapter son comportement, parfois avec de la coopération, parfois avec des conflits avec les autres. Mais au fond, une anthropologue qui s'appelle Julie Delalande a constaté que par rapport à des cours d'école, elle est une grande spécialiste des cours d'école, eh bien, dans les terrains d'aventure, les jeux collectifs étaient beaucoup plus longs et avec beaucoup plus d'enfants. Et donc, ces jeux de plein air avaient manifestement une fonction d'apaisement et de, comment dire, les conflits étaient moins durs et surtout permettaient d'embarquer davantage d'enfants avec davantage de coopération. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très positif. Donc je pense que il y a un enjeu, un bien-être pour les enfants, à la fois physique, cognitif, social, etc., qui est assez attesté. Il me semble qu'il y a un autre intérêt très important qui peut-être moins posé, qui est la dimension fondamentalement de permettre aux enfants de reprendre place dans la ville ou reprendre place dans les espaces publics et notamment d'investir un peu des zones interstitielles. Vous savez, du côté des mouvements militants écologiques, on défend beaucoup l'idée des ZAD, des zones à défendre, des brèches dans un monde normé, marchand. Et au fond, ces terrains d'aventure, ben, finalement, c'est un peu des équivalents de squats ou de ZAD, mais dédiés aux enfants. Et c'est une manière de faire des brèches aussi, un peu dans un urbanisme trop normé, qui vise la rentabilité, c'est largement spéculatif aussi, en fait, avoir des espaces qui servent à rien d'autre que de jouer. Si on arrive à défendre ça, c'est aussi une conception de la ville qui est en jeu. Et donc, une conception aussi de l'urbanisme et une manière pour les enfants de reprendre place dans l'espace public, qu'on les voit, qu'ils existent à nouveau et qu'ils ne soient pas enfermés que dans des lieux qui sont des lieux finalement qui ne concernent que des éducateurs, soit les parents, soit des éducateurs professionnels. Dans cette culture du dehors, c'est vraiment un type de posture d'accompagnement des adultes avec, je l'ai dit, une mise en retrait, un lâcher prise pour favoriser l'engagement des enfants, favoriser la possibilité pour les enfants de devenir vraiment pleinement acteurs. Et donc l'enjeu des pédagogues ou des enseignants quand on est à l'école, mais des animateurs quand on est dans le périscolaire, c'est pas d'enseigner, c'est pas d'éduquer, c'est plutôt d'arranger le contexte en vue de l'apprentissage. Et donc là, on a un lien qui est très fort, qui est mis entre cette culture du dehors et puis finalement des pratiques pédagogiques, j'ai envie de dire, qui sont assez anciennes, qui correspondent à ces pédagogies alternatives depuis très très longtemps, mais où l'enjeu est d'être plus à l'écoute des enfants et de laisser les enfants finalement être beaucoup plus acteurs. La plupart des acteurs de ces structures posent la question de la reconnexion des enfants avec la nature, comme manière finalement de lutter contre l'expérience sensible, directe de la nature qu'auraient les enfants. Alors je pense par exemple au philosophe Baptiste Morisot qui a beaucoup rappelé et qui est beaucoup repris en fait dans les discours des acteurs que des enquêtes montrent que des enfants de 7-10 ans aujourd'hui, ils sont capables de reconnaître 1000 logos de marques, mais seulement 10 feuilles d'arbres autour de chez eux. Et là, on voit bien que du coup, dans ces projets de culture du dehors, va se jouer la question du vivant, va se jouer la question de d'une reconnexion sensible à la nature, c'est-à-dire d'une expérience sensible de la nature qui, parce qu'elle offre des formes, des matières, des textures très riches, très variées, permettent l'éveil des enfants. On va avoir finalement cette idée que l'appropriation de la nature doit être douce, bienveillante, respectueuse, silencieuse. Tout ça, ça s'apprend en fait. C'est pas inné, c'est pas spontané, c'est très variable selon les milieux sociaux. D'où l'intérêt des terrains d'aventure pour partager un certain rapport particulier à la nature, qui est à la fois un rapport sensible, un rapport à la fois utilitaire et désintéressé, paradoxalement, enfin, c'est-à-dire qui n'abîme pas. Il y a vraiment deux logiques. Il y a la logique expérience de l'émancipation par le faire, par l'engagement corporel, direct des enfants, qui n'a pas grand-chose à voir avec la nature, ou en tout cas qui peut se passer dans la nature, mais qui peut se passer tout à fait ailleurs. Et puis, il y a cette question de la nature, qui est peut-être un revival actuel très très fort et qui s'inscrit dans la montée, effectivement, des préoccupations environnementales et des crises écologiques.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr. Ondes Durables est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.